Alors ça, c'est un album que ma mère écoutait tout le temps, donc c'est vraiment très lié aussi à la musique des années 60. Alors bon, je vais passer... qu'est-ce que je pourrais passer comme titre? Parce qu'ils sont tous tellement, tellement sublimes.
Les disques Vogue.
Oui, le disque Vogue, oui. Non, ça s'appelle You'll Never Get to Heaven. Et c'est vraiment un disque. Vraiment, il est bien conservé en plus. On faisait attention quand même. Hein. C'était des disques vraiment. Des objets de luxe un peu quand même.
La pochette est très belle, une très belle photo.
La pochette est très belle, justement, on l'avait comme ça exposé dans le salon. C'est vraiment magnifique, quoi.
Beaucoup de couleurs, tout le graphisme est en couleurs différentes, du rouge, du jaune, du bleu.
Oui. Les pochettes sont aussi importantes souvent que les disques. Hein. C'est vraiment, c'est un ensemble, quoi. Ça vraiment, c'est la vitrine de ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a un très beau graphisme. Voilà, ça aussi, c'est vraiment les véritables années 60, jusqu'à ce que j'arrive en France, en fait.
Fait qu'ils viennent, qu'ils fassent l'effort de chanter alors qu'ils n'avaient pas l'air préparés pour ça. Je me suis dit, ce gars-là a une ligne de vie qui a l'air intéressante. Je passais plus d'un point de vue karmique, j'ai observé ça, et je me suis dit, tiens, il va sûrement se passer quelque chose avec Étienne. Et voilà, je suis resté sur cette impression et je me suis pas trompé.
Les médias francophones publics vous proposent...
Globalement, ça va. Enfin, je veux dire, je ne suis pas de...
Dao, fan de pop.
Je suis assez...
Une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer.
Spontané, je crois, je dis pas mal de choses. Donc voilà. Et puis, bon, il y a des choses qu'on lâche parfois. C'est pour ça que j'aime bien la radio, et en fait, j'aime bien les choses en live, et j'aime bien la radio. Parce que même si on peut remonter en radio, quand on dit des choses, il y a le ton. Et avec le ton, on a le vrai sens des choses.
Ce deuxième épisode, retour aux sources, la capitale bretonne et sa rampe de lancement. Fin 78, Étienne Dao organise un concert avec deux célèbres groupes underground, les Rennais Marquis de Sade et les Parisiens Stinky Toys, connus plus tard sous le nom Élie et Jacquenot. En 79, première édition des Transmusicales de Rennes et la première fois qu'il monte sur scène. Une seconde naissance pour lui. En 80, rebelote, toujours aux trans. La France ne le sait pas encore, mais elle est sur le point de tomber pour Dao.
Aujourd'hui, tous les chemins mènent à Rennes.
Rennes, festival des transmusicales. Chaque année, début décembre, la ville devient le temps d'un week-end la capitale du rock en France. Des jeunes talents du monde entier viennent s'y faire connaître. Des destins s'y façonnent. Parmi le public qui applaudit les stars naissantes, bien peu savent que ce festival est le dernier témoin flamboyant d'une autre histoire. Celle d'une bande de copains qui, en quelques années, vont faire de Rennes, ville tranquille et un brin austère, la capitale du rock à la française.
Dao, fan de pop.
Ah, je brûle des tentacules, m'attrapant du fond des enfers. Donne la cruelle sensation de marcher pieds nus sur du verre. La bonté de ta main généreuse et parfaite qui me fait signe d'avancer. Me donne l'aimable sensation d'être à la vie de nouveau convié. Convié. Jusqu'à ce que repule, on en meurt. Tu m'invites à prendre ma place, à partager le miel des honneurs de ton cœur. Volontiers j'accepte le meilleur traitement que l'on réserve tout exclusivement aux invités, le festin nu qui fait les langues au soir se délier. We'll be right back. affolant, dont le poison noir et pourpre fait battre indécent le sang des amants. Ton baiser confiant m'appelle à un tout autre destin adoré, me donne l'aimable sensation d'être à la vie de nouveau convié. Je veux toute la partager à la table des poètes, des assassins, tout comme moi ici convié. Volontiers j'accepte le meilleur traitement que l'on réserve tout exclusivement aux invités, le festin nu qui fait les langues au soir se délier.
Bah, c'était très excitant. Alors, est-ce que c'était très excitant parce que c'était Rennes ou parce qu'on avait 20 ans? Ça doit être un mélange des deux.
Franck Darcel, cofondateur du groupe Marquis de Sade.
C'est autour d'un magasin de musique là, qui s'appelait 10-2000, où Étienne a travaillé d'ailleurs, où Hervé Bordier, futur fondateur de Transmusical, a travaillé également. Et ce magasin-là a servi de plateforme, c'est-à-dire que en descendant en ville pour acheter des disques ou pour écouter des disques, puisqu'à l'époque on écoutait religieusement les vinyles dans les petites cabines, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres punks en ville. Et de là, on a commencé à sympathiser. Et Etienne faisait partie donc, de cette clique autour du magasin de disques.
C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de modus vivendi qui allait à l'encontre de cette ville qui avait été très bourgeoise.
Sylvie Coma, journaliste et amie d'Etienne Dao.
On a eu la chance de faire partie d'une génération spontanée qui arrivait dans les années 70, après mai 68. Donc nous, on n'a pas connu mai 68 parce qu'on était trop petits. Mais en revanche, on a connu toute cette libération qui a suivi mai 68. On est arrivé dans ce flot-là.
Et à Rennes, c'était un peu une vie de patachon, quoi. C'était beaucoup boire, avoir une vie assez dissolue, très légère. Se réveiller à 15h, soigner une gueule de bois, ressortir, séduire n'importe qui, ramener cette personne à la maison... C'est que ça.
Tout ce monde-là s'est un peu déplacé vers le bar de l'Épée, parce que Rennes Musique, un autre magasin de disques très important ici, a ouvert à côté de l'Épée.
Un petit bar sympathique.
Jean-Louis Brossard.
Un lieu où on se retrouvait, qui était assez particulier.
Co-fondateur des Transmusicales de Rennes.
Parce que je me rappelle que le patron, des fois, pétait un câble et que sa femme prenait une serpillière mouillée et puis commençait à lui envoyer quelques gifles à coups de serpillière. Et nous, on était là, un peu étonnés. Mais à part ça, c'est un endroit où se retrouvaient effectivement les musiciens de Marquis de Sade aussi. Il y allait pas mal, quoi.
Qu'est-ce qu'on y buvait ici avant de partir faire la fête un peu plus loin?
Ah, de la bière.
Jean-Christophe Éluard, ami de jeunesse d'Étienne Daou.
Uniquement que de la bière, voilà. C'était la seule chose qu'on buvait, c'était de la bière, oui. On n'était pas riches. Et on comptait nos sous.
Et on se parlait de quoi? On se racontait quoi?
De tout, mais c'était une espèce de climat d'innocence où il n'y avait pas vraiment de sujet abordé, si ce n'est le côté festif et on parlait du cul. Tout était frais. Et on avait aucun tabou par rapport à ça. Et bah, quand on aimait bien quelqu'un, bah, voilà, on lui disait et on en parlait et on se mélangeait.
On était dans le rock, dans l'underground, dans la marginalité, dans tout ce qui s'est fait à ce niveau-là et qui s'accompagnait évidemment de liberté sexuelle, créativité tous azimuts, imagination, puisque ça avait été le slogan, l'imagination au pouvoir, les happenings, une espèce de joyeuseté, quoi, de trucs ambiants, insouciants, espiègles, et puis en même temps un peu sombres, parce que c'est vrai que c'était aussi l'époque des expériences un peu chimiques, tous azimuts. On faisait des expériences, quoi, et on s'amusait.
À l'époque, il y avait quand même une chose assez hallucinante.
Anne Clavery, ex-manager d'Étienne Dao.
C'est qu'il y avait une telle effervescence musicale et festive à Rennes que des gens venaient de Paris passer le week-end à Rennes. Donc, on n'avait pas à rougir de notre image de Rennais puisque c'était assez branché, en fait.
Il y avait effectivement une petite bande de gens comme ça, alors qui étaient plus ou moins étudiants.
Jean-Éric Perrin, à l'époque journaliste à Rock & Folk.
Et qui avait cette forte propension à faire la fête. Bon, c'est la Bretagne, on voit pas que de l'eau. Et voilà, tous ces gens-là se reconnaissaient donc dans cette envie de faire la fête, mais aussi dans la musique, par le simple fait que c'était des étudiants, donc des gens a priori avec un background culturel et une envie de découvrir les choses. Ils étaient très au fait de ce qui se passait de plus pointu, disons, dans la musique du moment.
Donc, il y avait des bandes, chacune avec sa spécificité, et donc on se croisait forcément, à un moment ou à un autre, surtout le soir, soit dans les bistrots, soit dans les concerts, soit dans les fêtes.
Je ne pouvais pas me fondre dans un groupe. J'étais dans plusieurs groupes, j'étais une espèce d'électron libre qui visitait les groupes de gens différents. Je me sentais très bien avec tous les gens très différents, mais j'avais pas envie de me conformer au goût vestimentaire ou musicaux ou autre d'un groupe. Je cherchais mon style, j'avais une idée de ce que j'aimais, de comment je voulais sonner. Mon style, c'était aussi ma voix, le fait que je l'ai pas travaillé. On me l'a assez reproché, et que je chantais comme je parlais, que j'ai pas changé mon nom. Donc tout a été spontané, parce qu'en fait, je pensais pas du tout que ça durerait une seconde. On était punk, tout le monde montait sur scène, prenait sa guitare sans savoir jouer ou chanter. J'aimais la musique, je faisais des chansons. Je me suis retrouvé embarqué dans une vague de gens qui faisaient ça, et puis c'était mes potes, et c'était notre mode de vie.
Ferme bien la porte. Va-t'en. Ferme bien la porte derrière toi. Je crois pas que j'avais la baraka. Le jour où je t'ai trouvé là, j'ai été séduit par ton air gavroche. Le chapeau sur un œil et les poings dans les poches. Va-t'en.
Oh non, elle était bonne ça.
Je commençais à faire des chansons dès l'âge de 15 ans. J'avais un petit système de notation, je trouvais beaucoup beaucoup de mélodies, j'avais plein de mélodies tout le temps dans la tête, et j'ai commencé à les enregistrer sur un dictaphone. Donc j'en avais plein, je crois qu'il y a même quelques chansons de mon premier album qui datent de ces années-là. C'est pour ça que cet album a une vibration tellement teenage en fait. On sent que c'est les chansons d'un très jeune homme.
Et Étienne a traversé ça en faisant une espèce de mix entre la période yéyé, qu'il avait connue justement quand il était gamin, à Oran notamment, la période rock-pop anglais, la période évidemment rock américaine, la soul, le blues, et puis la variété française.
Le temps me donne le temps, le temps me donne le temps, et il s'en va. Sur les toits, un peu de vent pour moi, et pour moi. Et puis.
Mais il y a la chanson Je vais encore sortir ce soir, ben c'est absolument ça. Ça, c'est vraiment Rennes à cette époque-là, quoi. Voilà.
Facile en regard mobile.
les habiles en automobile. Ce soir, je n'ai Dieu que pour toi. Ce soir, je n'ai Dieu que pour toi. Qui cherche, Dieu sait qui, Dieu sait quoi. Ah, ah.
Lui, c'était la gloire ou le caniveau.
Jean-Christophe Éluard, ami de jeunesse d'Étienne Daho.
Donc je pense qu'il avait quand même, effectivement, déjà des arrière-pensées par rapport à ça.
Cette phrase, je la comprends bien. La gloire, effectivement, il rêvait de faire ce métier, visiblement. Donc quand on rêve de ce métier, on a envie que ça marche. Le caniveau, ça veut dire quoi? Si ça n'avait pas fonctionné, ça serait mal terminé pour lui?
Je crois qu'il aurait très mal vécu. Mais de là à dire que ce serait très mal terminé pour lui, non. C'est marrant parce que il y a des gens, vous dites bon ben voilà, ça va marcher quoi. À la limite, vous ne posez pas la question. Vous savez que ça va marcher. Étienne, voilà, on sentait qu'il avait une destinée.
Mais vous le sentiez à quoi ça, par exemple?
Parce qu'il était déjà, mais c'était un type très spécial par rapport aux autres. C'était un type d'abord qui s'intéressait. À beaucoup de choses, à la littérature, à la musique, mais il était, c'était un personnage, une entité propre, qui lui était propre, qui ressemblait à vraiment à rien de ce qu'on pouvait voir dans la rue à cette époque-là. Il était d'une douceur, il était, voilà quoi, il aimantait.
Et vous pensez que s'il n'avait pas réussi comme il a réussi, c'est le caniveau qui lui ouvrait les bras? Vraiment?
Oui, je pense.
Oui?
Cricket Éluard.
Oui, vraiment.
Ami de jeunesse d'Étienne Daho.
Avec une force de caractère comme l'avait décrit, vous pensez pas qu'il s'en serait sorti quand même?
Mais dans quoi il aurait pu s'en sortir, je ne vois pas. Il était tellement envahi par sa musique que je ne vois pas. Il était pris par ce rêve dès l'enfance. Donc il y aurait eu forcément des frustrations énormes. Parce que les artistes qui l'écoutaient, ils étaient déjà dans leur vie. Donc j'ai du mal à imaginer. Quelquefois j'y pense. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il aurait pu faire comme métier? Non, je pense que ça aurait été très triste.
J'aurais pu être prof d'anglais. Ça m'étonnerait, mais bon, j'aurais peut-être pu, à un moment donné, bifurquer, avoir envie d'une certaine normalité, de me marier, de créer un foyer, de rester à Rennes. Ça s'offrait à moi aussi. Et à la fois, j'étais en pleine panique à l'idée que j'aurais pu suivre cette voie-là.
Mais je pense qu'il avait d'autres options. Voilà, c'est toujours pareil. Il avait été jeune, il avait 22, 23 ou je ne sais plus.
Patrick Péan, ex-manager d'Étienne Dao.
Après, il y a d'autres solutions. Hein. La ville lui aurait appris quelque chose. C'est quelqu'un qui aurait rebondi. De toute façon, Étienne, c'est un dur à cuire sous ses allures de timide et de genre, je ne sais pas où je vais. En fait, c'est très bien où il va. Et sans ça, il n'aurait pas fait cette carrière. Hein. Vous savez pas où vous allez, vous êtes foutu.
C'est une chance de savoir ce qui vous convient. Et ça, je l'ai su tout de suite. J'ai su immédiatement ce que je devais faire, les gens vers lesquels je devais aller, les gens avec lesquels je pourrais faire des belles choses. Je le sais. Je le sais. Je peux pas l'expliquer. C'est comme ça.
Donc il se posait même pas de questions, ça devait être comme ça, sinon...
Sylvie Coma.
Il disparaissait.
Ami d'Étienne Dao.
Faut pas le prendre comme ça de façon lyrique et tragique, mais je pense que s'il avait pas fait ça, Étienne serait mort. Mais il faisait pas de plan de carrière. C'est ça qui est marrant.
Il disait d'ailleurs la gloire ou le caniveau.
Ouais, c'était ça. Je pense que s'il avait pas fait ça, il serait devenu alcoolique, drogué, je sais pas, il serait mort quoi.
Une de mes chansons préférées, alors c'est loin d'être la plus connue.
Emmanuelle Alt, directrice de Vogue Paris et amie d'Étienne Dao.
Mais c'est une chanson qui s'appelle La Baie, qui évoque un départ d'une île. Je pense qu'Étienne l'a écrit à un moment de sa vie, peut-être où il était très sentimentalement impliqué. Enfin, voilà. Et c'est une chanson qui me touche, mais je ne sais pas pourquoi. Chaque mot, j'aime vraiment cette chanson. Voilà, La Baie, c'est une de mes chansons préférées. C'est pas la plus connue des gens, mais elle est merveilleuse.
Quitter l'aéroport et courter ses adieux. L'émotion est trop vide et mon cœur bat pour deux. Bientôt de ton hublot, l'île ne sera un point sur l'eau. En partant, tu emportes le meilleur de moi-même. Je roule vers la baie, son matin lumineux. Ses atomes d'azur. Rien n'a changé, pourtant le jardin lourd est différent. En restant seul, je deviens étranger à moi-même. J'ai perdu, je m'incline. T'en fais pas, quelqu'un d'autre guidera tes pas. Mes signaux traversent les airs, l'océan. Personne n'entend. Dans la chambre déserte, les souvenirs affluent. Et je baisse la tête comme un guerrier vaincu. Plaie encore ouverte, mépris de soi réactivé. En restant seul, je deviens un danger pour moi-même. J'ai perdu, je m'incline, j'ai compris, et je disparaîtrai de ta vie si mes
signaux traversent les airs, l'océan. Personne n'entend. J'ai perdu, je m'incline, je comprends, puisque la parenthèse t'attend. Si mes signaux traversent les airs, l'océan, plus personne n'entend.
Prévu pour octobre, la parution du prochain Dao est repoussée. À cause d'une péritonite l'été dernier, le crooner électro a bien failli basculer de l'autre côté du miroir. Il est en convalescence. Ce 10e album est très attendu. L'invitation, le dernier, remonte à 2007. 18 novembre 2013, enregistré à Paris, Londres et Rome, les chansons de l'innocence retrouvée sortent de sous terre. Nile Rodgers, Dominic A et Debbie Harry sont de la partie.
Alors on va peut-être commencer par la pochette, puisque cette pochette a fait parler d'elle. Enfin, il y a eu deux versions. Il y a eu la version, donc vous êtes dans une embrasure de porte, à Ibiza toujours, sauf erreur.
Oui.
Photo Richard Dumas. Et vous êtes avec une femme que vous avez rencontrée quelques minutes avant finalement, puisque vous ne la connaissiez pas du tout, et qui est seins nus.
C'est ça.
La pochette a été censurée à certains moments, on voit votre nom, etc. Enfin, il y a un bandeau sur les
oui,
seins.
Oui, mais on peut vendre des yaourts avec des femmes nues, ça, il n'y a pas de problème. Alors... une œuvre d'art, ça pose un problème. Il y a des choses qui m'échappent, mais bon, ça c'est un autre sujet. En fait, Richard Dumas, donc...
C'était un voyage à Ibiza, où on devait se retrouver pour faire des photos, et...
je l'avais mis dans un hôtel qui s'appelle le Paix Hotel, parce que c'est un hôtel mythique, dans lequel sont descendus tout ce qui compte de rockstar mondial, Brian Wilson, etc. Donc c'est un endroit qui est très habité.
Donc je passe cette nuit au calme et le lendemain matin je me réveille, je me vais vers le salon. Alors j'étais au rez-de-chaussée avec vue sur une espèce de petite piscine. Puis j'ouvre les rideaux et là je vois une femme nue face à moi.
Donc il a fermé les volets en pensant qu'il rêvait toujours, et qu'il a rouvert les volets et qu'elle était toujours là.
Non, elle est bien là. Et je m'habille vite fait puis je sors et... et là, je découvre qu'en fait, la fille n'était pas seule, mais qu'il y avait un photographe aussi. Et on discute, en fait, c'était un mec qui venait de Londres, ou je ne sais plus, qui faisait des photos pour un magazine de charme. Et, la fille était charmante, adorable et tout. Bien connue, on avait l'impression que c'était elle la plus habillée, en décontraction.
Et donc, à un moment donné, on se promenait dans l'hôtel, on a trouvé cette porte qui était très jolie, elle est passée. Et Richard lui a dit, ça vous embête pas de faire une photo avec Étienne ?
Étienne m'a regardé un peu. Ah bon, quelle drôle d'idée, Richard. Et finalement, on l'a fait.
Il y a deux photos comme ça. Il y a une photo où on se regarde, et une photo où on regarde l'objectif. Et comme c'est un instantané, donc il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de stylisme, il n'y a pas d'intention. Et donc, c'est une photo complètement, c'est comme un selfie, en fait. Enfin, ou une photo prise comme ça, quoi.
Ensuite, je n'ai pas tout de suite montré à Étienne. Ça a pris un certain temps. Et puis, un jour, je lui donne ça. Et
je vois cette photo, je me dis, mais cette photo est dingue. Non, pas parce qu'il y a une femme nue. C'est une photo qui est dingue parce que la lumière est parfaite, le cadrage est parfait. Et si on avait voulu... véritablement fabriquer cette image, on n'y serait pas parvenu.
Un jour, Étienne me dit, tu vois la photo que tu m'as donnée là, ça m'a inspiré quelque chose, ça m'a inspiré peut-être un album.
Il y a chez cette fille, dans son regard, quelque chose qui est très touchant justement. Il y a quelque chose comme ça de l'exil, de...
Alors ça, c'était les chansons de l'innocence retrouvées. Souvent, les images d'albums, elles viennent après, une fois que la plupart des musiciens ils se posent la question, une fois leur musique enregistrée. Ah, qu'est-ce qu'on va faire maintenant comme image? Qu'est-ce qu'on va mettre comme image? Et là, c'est l'inverse. L'image est à la genèse de Chanson de l'innocence, retrouvée. Alors donc, c'était au départ un geste très innocent.
Après, c'était le début des problèmes.
Parce qu'il fallait la retrouver pour les droits, c'est ça?
Oui, il y a eu tout l'aspect technique, mais il y a eu l'aspect aussi de la faire accepter par l'entourage, qui la trouvait trop osée. Enfin bon, j'étais un adolescent dans les années 70, donc c'est pas le genre de choses que moi je peux trouver choquant une seconde, quoi.
Dao, fan de pop.
Et puis, alors, c'est un album qui, avec plusieurs collaborations à nouveau, assez hétéroclite d'ailleurs.
Oui, c'est un album que j'ai fait avec Jean-Louis Pierrot, que j'ai retrouvé. Je me disais que toutes les chansons que je préférais des années récentes, enfin à partir des années 2000, étaient des chansons que j'avais écrites avec Jean-Louis. Ouverture, L'Adorée. Et donc j'ai voulu voir avec où est-ce qu'on en était. Et on a commencé à travailler ici justement.
Donc j'étais venu avec mon matériel. Il a une grande table dans son salon, donc on s'était installés tous les deux sur cette grande table. Moi d'un côté de la table avec tout mon matériel. Un matériel nomade adapté à ça, et lui son ordinateur et tous ses disques.
Et tout de suite on a écrit L'Homme qui marche immédiatement, qui est une des chansons préférées de tout ce que j'ai fait. Donc tout de suite la barre était très haut, quoi. On avait vraiment un niveau de créativité ensemble qui était très bon, et surtout on avait envie de s'épater l'un l'autre. On était dans une espèce de d'envie de de s'épater, de montrer à l'autre qu'on était bon. Voilà.
On travaillait conjointement, il avait ses textes qui travaillaient en même temps que la musique, donc on travaillait en ping-pong. Je lui faisais écouter des choses, il me disait ouais, essayons ça. Et il écoute cette référence pour essayer de. C'est un travail de recherche, de recherche qu'on fait ensemble.
Et donc ça a été une très bonne stimulation, très bonne émulation de part et d'autre. Et on a fait un très beau disque, franchement. C'est vraiment aussi un album dont je suis très très fier. Il y a vraiment des grandes chansons dedans. Pour mon goût, je dis ça. Quand je dis que ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien, on va certainement, probablement penser que je suis pas du tout modeste, mais je sais quand je suis bien, je sais quand je suis pas bien. Et quand je dis qu'une chanson est bien, c'est que je peux l'écouter. Ça peut être la chanson de quelqu'un d'autre. Je dirais, cette chanson me plaît. Je trouve qu'elle est bien foutue, qu'elle a inventé quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire?
11 000 vierges sous acide lysergique, console des malabars tendues et mélancoliques, jours et nuits au French ou aux colonies, de la rue des Saints-Pères à Sceaux, tu me poursuis.
Dao, fan de pop.
C'est L'Homme qui marche. On a eu tous les deux, en faisant cette chanson, la sensation de composer une chanson qui nous dépassait tous les deux. Je crois que ça, elle reste aujourd'hui notre grande fierté. On est tous les deux très fiers de cette chanson, et on se dit, en rigolant, mais comment on a fait pour écrire un tel titre? Elle est tellement bien que ça pourrait être quelqu'un d'autre qui l'a fait, quelqu'un qu'on admire, voilà. C'est très rare, c'est très rare.
Piazza Navona, j'étais là très tôt ce matin, je te cherchais, à vive allure, le passé nous rattrape. Je me demande si j'ai eu raison, mais me voici à Rome, devant chez toi.
L'escalier monte à sa chambre et dans ce froid de queue, l'enfant du roi fou. En bas de chemise légère, dans son âme, tous nos mystères. L'escalier monte à sa chambre, et dans le froid de décembre, son accent français le trahit. En bras de chemise légère, dans ses yeux tous nos mystères, de Marseille. Mes photos d'un ado sombre, accrochées au mur devant lui.
qui marche devant moi. Est-ce moi? Comme le héros d'un livre qui ne sourirait plus qu'une fois. L'homme qui marche devant moi. Est-ce toi?
Celle que j'aime le plus, c'est L'homme qui marche. Donc, est sur l'album des chansons L'innocence retrouvée. Voilà.
Nathalie Noënec, conseillère en images.
Moi, je me souviens de mon trouble, la première fois où je l'ai entendu. Je l'ai entendu, peut-être je me trompe, comme une sorte d'autoportrait. Puis je pense que c'est un moment. C'est l'alignement parfait. J'adore son timbre. J'aime la construction de cette chanson, j'aime ce que ça rencontre, je trouve qu'il y a une tension dans ce morceau. Et je crois que bah c'est un peu particulier. La description des émotions, c'est complexe. Mais se souvenir des émotions qu'on a ressenties, c'est facile.
Donc, vous avez mixé l'album « Chanson de l'innocence retrouvée ».
Oui.
Vous avez travaillé dessus largement, oui. Jean-Louis Pierrot. Est-ce qu'il y a des lignes à suivre quand on travaille Étienne Dao sur un album complet? Est-ce qu'il y a une espèce de ligne à, voilà, qui a été dessinée au départ et qu'il faut vraiment suivre?
Oui. Il y a un décor, il y a un son. Alors, c'est difficile à expliquer parce que d'un album à l'autre, déjà, ce n'est pas les mêmes directions. Ce n'est pas nécessairement des références précises, mais c'est un son, c'est une ligne à garder, oui, et une cohérence. En l'occurrence, pour les mix, les chansons de l'innocence, il fallait que la rythmique soit très présente, soit très dynamique. Et je trouve que j'adore ça aussi. Donc ça a été assez rapide entre nous pour mettre au point la patte sonore, quoi, la dynamique de l'album. Mais oui, effectivement, c'est pas au hasard.
Moi, je trouve que c'est un album très pop.
Pierre-Alexandre Vertadier, manager d'Étienne Dao.
Moi, j'ai trouvé la richesse mélodique de l'album assez dingue. Et dès que je l'ai écouté, j'ai senti qu'il y avait des chansons qui allaient être marquantes. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de très frais, de très direct dans cet album, quelque chose d'immédiat. Moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, en tout cas.
Il y a aussi des collaborations assez diverses, finalement.
Oui, mais ça fait partie des choses dont Étienne a toujours été... Chaque disque est fait de rencontres, d'envies. Parfois, c'est des histoires qui traînent depuis très 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 longtemps et qui ont mis du temps à aboutir. Parfois, c'est des rencontres qui sont très récentes. Enfin, voilà. Il est toujours à l'affût de l'air du temps et des rencontres artistiques.
En surface a connu une vie assez sympa, on va dire, puisque d'abord vous l'avez interprété en duo, et après il y a un remix assez connu aussi de Rhône.
Oui, tout à fait. C'est une chanson qui a eu un beau destin.
Dominique A.
Il se l'est tout de suite accaparé. Je crois qu'il a tout de suite vu. C'est quelqu'un qui s'est très bien repéré. En ça, il est assez Bowie-esque. Et ce qui lui convient, c'est-à-dire ce qui va servir son histoire, ce qu'une chanson va lui apporter dans son histoire, dans son répertoire. Il a tout de suite perçu ça. Après, il m'a expliqué que quand il travaillait sur l'album, il y avait des votes à main levée par rapport au choix des chansons. Et donc ils avaient élu en surface comme étant digne de figurer sur le disque à main levée. Je crois qu'il n'y avait pas eu de voix contre sur 5. Et moi, ça m'a vraiment... ça a été un moment important pour moi parce que déjà, c'était voilà, une chanson faite pour une icône comme Étienne Dao et qu'il adopte, qu'il reprend, et qu'il fait sienne véritablement, qui s'intègre assez naturellement à son répertoire. Une chanson qui est tout de suite adoptée par les gens et qui, moi, me donne aussi l'envie de revenir à une écriture aussi plus pop, des chansons plus courtes, plus concises, plus ramassées, et qui m'a finalement aiguillé pour l'écriture d'un album que j'ai fait en 2015. Donc ça a été vraiment un moment assez déterminant pour moi. Et puis surtout, vraiment, c'était une chanson sur laquelle j'ai eu énormément de réactions, et je pense lui aussi. Beaucoup de témoignages spontanés. Il y a un signe qui ne trompe pas, c'est le nombre de SMS que vous recevez. Et j'ai reçu beaucoup de SMS avec En Surface. Beaucoup, beaucoup de SMS de gens qui me disaient « Super chanson, bravo !» Je me disais, qu'est-ce que je peux lui apporter? C'est pour ça que cette chanson est née. Elle n'était pas destinée à quelqu'un d'autre. Je lui en ai confié d'autres qu'il n'a pas prises, qui n'avaient pas été écrites pour lui. Il n'y a pas de hasard, je pense.
Que de temps passé en surface, que de temps à ne pas s'encombrer. Du temps et des étoiles tombées. Que de temps passé en surface, je me voulais léger, léger. Du plaisir sans se retourner. Ce plaisir ne m'allégeait pas. La beauté n'avait pas de bras. Je rêvais d'une vie de plumes. Ignorais la stèle et l'enclume. Je balayais mes propres traces. Que de temps perdu en surface. Que de temps passé en surface. Que de temps à ne pas succomber aux spleen et aux étoiles implombées. Que de temps passé en surface. L'éphémère était mon credo. Et hier, à la mauvaise place, je n'aimais pas trop mon cerveau. Mon corps envahissait l'espace. Puis j'ai vu bouger la surface. Tout le temps venant à déborder. Je pensais n'y pas y penser. Oui, mais nos pensées nous dépassent. Et j'ai glissé sous la surface. Délesté de la légèreté. J'ai compté les étoiles tombées. Et claqué le temps perdu en surface. Que de temps passé en surface. Que de temps à ne pas s'encombrer. Du temps et des étoiles tombées. Que de temps passé en surface.
À quoi est-ce que vous rêvez en dormant?
J'ai des rêves fous en fait. J'ai une vie onirique assez délirante. Le rêve m'intéresse beaucoup comme matière d'inspiration. J'ai un cahier où je note tous mes rêves, par exemple, quand je m'en souviens. Souvent, il faut aussi que je les enregistre très vite parce qu'après, ça se referme et il n'y a plus que des bribes. Hein, alors que souvent, ce sont les détails qui sont vraiment intéressants et qui sont les plus parlants. Des rêves récurrents. À une époque, je rêvais souvent que j'étais agressé par des chiens. Mais c'est aussi un souvenir d'enfant où j'ai été attaqué par un gros chien.
Et votre univers de rêve ressemble à quoi? C'est quoi les couleurs, l'atmosphère, les formes?
Je sais pas, je peux pas vous dire. C'est délirant, voilà. Ce sont un peu des rêves psychédéliques, on va dire. Avec des figures de ma famille, de mon passé, de mon présent. Parfois de situations incongrues avec des gens que je connais, des rêves érotiques, des rêves. Je me souviens que pendant longtemps, je rêvais que je tombais dans le néant, dans le vide. J'ai horreur du vide en fait. J'ai le vertige. Mais je fais plus ce rêve-là. C'est fini. Je me réveillais en sueur.
Les médias francophones publics vous ont proposé Dao, fan de pop. Une émission de Jean-Luc Lehmann et Mathieu Ramsauer. Attaché de production Cécile Claire. Narration Christelle André.
Dans mon château, je vivais tranquille. Quelques farces, enfin bref, la routine. Le jour où elle s'est installée, mon air suspendu, je me suis figé. Ectoplasme transi, elle passe à côté de moi sans me voir. Ectoplasme transi, elle passe à côté de moi sans me voir. Toutes les nuits à travers les murs, dans le château hanté je murmure. Démon frais d'où ma passion se déchaîne. Toutes les nuits je fais sonner mes chaînes.
Prochain épisode, nous irons voir en détail comment le célèbre album Paris Ailleurs a été pensé, écrit et enregistré.
Tout cet album a été écrit à Lisbonne,
oui,
dans ce contexte-là.
Et dans l'ordre, dans l'ordre de l'histoire. Et d'ailleurs, le dernier mot, c'est fin. Le dernier mot, j'étais content, j'étais assez fier que dans la dernière chanson de l'album, je puisse dire fin, quoi.
Mais pourquoi vous avez envie de l'écrire dans l'ordre ?
Ça s'est imposé comme ça, je suivais l'évolution de cette affaire, et j'écrivais.
C'est un album concept.
Benoît Cachin, journaliste.
Puisqu'il raconte sa vie la nuit, ses amours déçus, ses amours passionnés. qui se clôt même avec ce fameux Paris ailleurs où il s'en va. C'est toujours un album de la fuite. Il est entre New York, Lisbonne, Paris. Là, c'est vraiment le Étienne voyageur qui va dans le monde entier.
You brighten the vocals at the point?
A little bit, yeah.
I think it feels better for me.
I'm going to take it a little further?
Yeah.
Okay.
Il adore la soul.
Edith Fambuena, coproductrice de l'album Paris ailleurs.
Ça lui rappelle justement pas mal de choses de son enfance, pas mal de choses comme ça. Il adore ça, quoi. Et là, il s'est laissé porter par ce qu'il avait envie de faire. Il adore ça. Il adore danser, il adore... Son débit de voix est très particulier parce que justement, moi, je l'ai compris tard, ça. Parce qu'il a tellement écouté de soul... Mais il se place... pourtant, il a un débit. Comment il se place? C'est particulier. Le jour où j'ai compris, j'ai dit, voilà, ça, c'est en fait, c'est un mélange de toutes ces influences. Quoi.
Chers téléspectateurs, bonsoir. C'est un instant que nous attendions toutes les deux avec beaucoup d'impatience. Il a chanté tout l'été et nous revient cet hiver avec une chanson de saison comme un igloo. On l'accueille, Étienne Dao.
C'est en toi que l'amour se lève.
Je sais.
Dao, fan de pop. Tous les dimanches de l'été à 11h. Rediffusion le samedi à 16h.
La première vous offre l'heure.
Il est midi sur la première.